Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais vous parler d'autorité. Ce qu'est l'autorité? L'Épître, toute paternité vient de Dieu. C'est la source scripturaire de la doctrine sur l'autorité, qui vient confirmer la réflexion, le simple bon sens de ceux qui veulent bien réfléchir. Première partie au sermon. Qu'est-ce que le synode sur la synodalité? C'est un refus de l'autorité divine. Monseigneur Williamson a fait des commentaires Ellison récemment sur Kant. C'est très intéressant, c'est parfaitement juste, c'est ce que nous étudions au séminaire et cela décrit bien la réalité. Mais on se demande à quoi correspond cet exposé théorique que Kant a-t-il voulu, enfin pourquoi on décortique ainsi intellectuellement ce genre d'erreur. C'est très simple, c'est très simple. C'est une question de révolte, et vous avez deux types de révolte. Vous avez la révolte de celui qui ne cherche pas à se justifier et qui s'en moque de savoir si l'autorité le condamne ou le condamne pas, s'il y a une loi ou s'il n'y a pas de loi. Et puis vous avez la révolte de celui qui est intelligent et qui a nécessairement besoin de se justifier, parce que sinon la conscience le mord, parce que sinon il est assez intelligent pour savoir que sa révolte ne peut pas se communiquer à d'autres. Vous avez la révolte de l'ivrogne qui ne se communique qu'aux ivrognes, puis c'est tout. Mais vous avez la révolte de celui qui justifie sa révolte et qui se communique comme un véritable cancer. La première étape de la révolte, c'est un vice à l'origine. Ce n'est pas une erreur, c'est un vice. C'est une erreur causée par un vice. La première étape de la révolte, c'est de dire « Oh, l'autorité divine, moi j'en sais rien. Qui peut connaître Dieu ? Dieu est bien trop élevé, on ne peut pas connaître Dieu. » Sous apparence d'humilité, c'est un refus de l'autorité divine. Et cela, c'est un religieux qui a été un des premiers à le dire en chrétienté. Je ne parle pas des philosophes grecs qui niaient la vérité, la possibilité de la connaître. C'est Occam, un franciscain. Oh, on ne peut pas savoir. Il y a la foi, heureusement, il y a la foi. Non, non, mais la foi ne suffit pas. Enfin, elle suffit, mais quelle la foi si vous affirmez qu'on ne peut pas connaître les choses? Alors la foi, c'est quoi? C'est un arbitraire? Ça tombe du ciel comme ça, on ne sait pas comment? Alors on ne peut pas connaître, c'est facile si on ne peut pas connaître, parce que du coup, on fait ce qu'on veut. Et puis vous avez ces faux philosophes, Descartes et toute la suite, qui ont fondé un prétendu système philosophique. Ce n'est pas un système philosophique, c'est des affirmations gratuites, c'est une prétendue justification de révolte qu'ils l'ont fondé sur le fait que si on ne peut pas connaître, eh bien chacun refait les choses à sa guise. Donc les décrit à sa guise, les fait à sa guise et conduit sa vie à sa guise. Et après ça, dernière étape, il suffit de trouver quelqu'un qui semble avoir suffisamment d'autorité pour que les gens disent « Oh, c'est bien vrai ». Cette révolte manquait. Kant n'est que Kant, un Allemand qui est tout sauf philosophe, il avait quand même une certaine aura, une certaine prétendait avoir une certaine autorité. Alors depuis Vatican II, alors là, on s'est servi de l'autorité de Dieu pour valider cette révolte. Voilà, c'est ça. Et les révoltés sont allés chercher le détenteur de l'autorité divine pour valider leur révolte. Là, ils ont fait un coup de maître. Le synode sur la synodalité, qu'est-ce que c'est ? C'est la justification de la révolte qui se révolte. C'est-à-dire que la synodalité, c'est l'organisation. On fait un synode. Synode, c'est-à-dire une assemblée. Une assemblée, là, la Chambre des députés. C'est la Chambre des députés au niveau du diocèse, le synode. On fait parler la base. La base exprime ses ressentis, c'est-à-dire ses caprices. Les caprices. Et puis, en s'appuyant sur ses fausses philosophies, on répond « Ah, c'est tout juste si ce n'est pas un oracle divin. » Parce que ça vient du fond de l'homme, parce que l'homme crée le monde, bien. Sur quoi c'est fondé cela ? C'est fondé sur Gaudium et Spes. Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui est le document central dont on parle le moins, parce que c'est un document qui a noyé le poisson, parce que c'est un document dans lequel vous n'avez pas des phrases qui vous choquent comme une pointe de couteau qui vous rentre dans les chairs, vous voyez ? Vous avez une pointe de couteau, vous le sentez, vous faites « aïe ». Alors ça, c'est le document sur la liberté religieuse, « Tout homme a droit à la révolte ». Je traduis, mais c'est ça que ça veut dire. Vous avez le document sur l'Église. Oh, l'Église, vous savez, ce n'est pas que l'Église catholique. Vous avez des documents qui ont été cités parce qu'ils sont... Ils vous piquent, là. Ils piquent la doctrine. Gaudium et Spes, on ne le cite jamais. Pourquoi ? Parce que c'est noyé sous des grandes phrases, mais c'est le document le pire parce qu'il prétend... Il prétend... que cette construction capricieuse du monde faite par les esprits révoltés est inspirée par le Saint-Esprit. Que c'est le Saint-Esprit qui parle. Jean-Paul II, première encyclique de Jean-Paul II, toute première, ce qu'il y a de bon, les religions non chrétiennes, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'on y trouve du bien. Le synode, c'est ça, c'est la révolte au niveau du diocèse. Et puis les évêques sont priés de dire « Amen ». Seulement, cela, ce n'est pas encore une institution dans l'Église. Et qu'est-ce que le synode sur la synodalité ? C'est terrible. C'est un synode qui va, de façon synodale, valider tous les synodes. Par avance. C'est logique. C'est logique. Si l'autorité vient de la base valide l'autorité qui vient d'elle. Et toutes les décisions synodales sont validées par le synode sur la synodalité, qui n'a pas encore eu lieu. Bon, je ne me tiens pas très au courant, mais je crois qu'il va avoir lieu à Rome là prochainement. En tout cas, en ce moment, c'est celui chez les Allemands. On prétend que ce sont des aspirations. Alors, il y a des horreurs, hein, je peux pas dire ça en public. C'est des horreurs. Notamment les perversions que vous supposez, contre le sixième commandement, ces perversions, parce que elles sont maintenant relativement répandues, on affirme que c'est une expression normale de la nature humaine. On va même plus loin, si elle n'était pas répandue auparavant, c'est parce que l'Église avait bloqué l'expression naturelle de la nature humaine. Donc c'était l'Église qui agissait de façon contre nature en bloquant les expressions de la nature. Les conséquences de cela, c'est que on ne se rend pas compte. Quand on lit des choses pareilles, on dit « Ah, ça, c'est les Allemands, alors là. Ah, ça, c'est Vatican II. Ah, ça, c'est les modernistes. Ah, ça, c'est pas nous. Ça, c'est les autres. Ça viendra jamais chez moi. » Et puis, ça vient chez nous. Ça vient chez nous parce que toute la société vit de cette manière-là aujourd'hui. On n'a pas le droit d'imposer. Ce sont des choses qu'on dit aux enfants, à l'école, qu'ils entendent avec leurs camarades. Ce sont des choses qu'on entend même en famille. Quand vous avez une tante qui vous dit « Oh, quand même, tu es trop strict avec tes enfants !» Elle ne fait qu'appliquer la synodalité, elle ne fait qu'appliquer les principes de Kant. Pourquoi je suis trop strict avec les enfants? Qu'est-ce que tu veux dire là? Qu'est-ce que tu me reproches? D'avoir tapé trop fort ou d'avoir tapé tout court? Non, c'est pas ça, mais tu te rends pas compte ce que tu leur imposes. Ah, on y voilà. Ah, nous y voilà. Laisse-les faire leur vie. Vous avez une des conséquences de cette mentalité. Les enfants, c'est l'avenir. Ah, les enfants, c'est l'avenir. Et vous avez tous les bons catholiques, charismatiques, tout ce qui reste, enfin tout, j'exagère bien entendu, une bonne partie de tous les catholiques encore pratiquants, qui vénèrent leurs enfants, qui se mettent en quatre pour leur offrir toutes les possibilités de construire l'avenir. Les stages en Chine, ou je ne sais pas où. Face à cela, qu'est-ce que l'autorité ? Faites bien attention. L'Écriture sainte nous dit, toute paternité, c'est la deuxième partie du sermon. Là, c'est la vérité que je vous expose. Alors qu'avant, j'avais démoli l'erreur. Toute paternité vient de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Deuxième partie, petit a, ou grand a. N'allons pas traduire, tout père vient de Dieu. C'est toute paternité vient de Dieu. Il faut que le Père exerce la paternité. Et vous avez la paternité qui peut être exercée de façon très diverse, chez le Père en premier, et chez tous ceux qui ont une paternité spirituelle. Parce qu'une paternité spirituelle, ça existe. Toute autorité vient de Dieu, ça n'a jamais voulu dire que tout chef vient de Dieu. Il y a une erreur très classique aujourd'hui, très répandue, et qui nous bloque, qui nous empêche, qui bloque notre liberté de réaction face au mal. C'est de confondre la qualité, autorité, avec le sujet de l'autorité. Ah, le pape, c'est l'autorité dans l'Église. Toute autorité vient de Dieu, je ne peux pas toucher au pape. Oui. Alors, on ne peut pas toucher au pape, donc on s'habitue. On s'habitue à ne toucher à aucune autorité, je mets des gros guillemets, parce que si on appelle ça une autorité, on ne peut pas y toucher. Le gouvernement de la République, franc-maçonne, ah, c'est l'autorité actuelle. Le pouvoir établi. C'est tout le problème de l'Église et de bons papes à partir de Léon XIII, mais même avant, enfin surtout Léon XIII. Toute autorité vient de Dieu, donc on n'a pas le droit de s'opposer aux autorités qui gouvernent les États, même les autorités franc-maçonnes. Attendez, très Saint-Père. C'est l'autorité qui vient de Dieu, pas le franc-maçon. Si vous faisiez une distinction entre l'autorité qui est d'une qualité et le sujet de l'autorité, vous cesseriez d'avoir des problèmes. C'est un petit peu comme si on confondait la vérité est le professeur. Tout professeur est divin parce que la vérité est divine. Ben non, tout professeur n'est pas divin. Je suis désolé. Ce qui est divin, c'est la vérité. Alors si le professeur est divin, on ne peut plus jamais s'opposer dans une classe à un professeur qui enseigne des erreurs et des bêtises. Si on distingue la vérité et le professeur, Alors, c'est au nom de la vérité qu'on s'oppose au professeur qui dit des bêtises. Et à ce moment-là, tout est clair. Et il n'y a aucune révolte, il n'y a aucune subversion, il y a au contraire un rétablissement de l'ordre, parce qu'au nom de la vérité qui est suprême, au service de qui tout le monde se trouve, au nom de la vérité, on rétablit l'ordre contre un professeur qui détruisait l'ordre et qui détruisait la vérité. C'est la même chose pour l'autorité. Et celui qui s'oppose à un mauvais dépositaire de l'autorité ne touche pas à la vérité, à l'autorité, il ne détruit pas l'autorité. Au contraire, c'est au nom de l'autorité qu'il s'oppose au pape. Gloire à Monseigneur Lefebvre de l'avoir senti instinctivement, naturellement, et de l'avoir enseigné. La seule peut-être chose, peut-être, c'est que on aurait dû aller plus loin, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, le bon Dieu ne l'a pas permis. Mais je le fais avec vous, parce que nous apercevons qu'il ne suffit pas d'avoir cette connaissance instinctive de dire que le pape est le serviteur de la foi et que la foi est au-dessus du pape. Il faut dire que l'autorité est au-dessus du pape. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Il y a identification entre l'autorité qui est une qualité et le sujet qu'en Dieu, parce qu'en Dieu tout est un. Dieu est la vérité. La définition de Dieu, c'est d'être la vérité. C'est aussi sa définition d'être la bonté, donc la bonté et la vérité, tout est un en Dieu. Il n'y a pas de distinction en Dieu. Et donc la qualité et le sujet en Dieu sont rigoureusement identiques. Mais en dessous de Dieu, ça n'est plus possible, parce qu'en dessous de Dieu, tout est participé. Dieu est la vie, mais aucun être vivant ici-bas n'est la vie. Il a la vie, il a reçu la vie. Dieu est la vérité, aucun être vivant ici-bas n'est la vérité, il a reçu la vérité, il adhère à la vérité, il est éclairé par la vérité, il transmet la vérité, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas la vérité. Et la même chose pour l'autorité. On a un orgueil démesuré, dans cette divinisation de l'autorité par l'identification de la qualité et du sujet. Partout où le pape se balade, il rayonne l'autorité. Eh bien, non. Il ne suffit pas d'être présent pour être la référence unique. Et on retrouve ça chez tous ceux qui vous reprochent d'exercer l'autorité. On retrouve ça chez tous les libéraux. Un libéral paraît, il est la référence. Il est le sage parmi les sages. Parce que lui, le libéral, sait se tenir à l'écart des excès. Je suis désolé, il n'y a pas un homme, pas même Monseigneur Lefebvre, qui, parce qu'il est lui, soit l'autorité. Ça n'est pas vrai, ça ne peut pas exister. Ce que nous admirons chez Monseigneur Lefebvre, c'est justement son humilité face à l'autorité. Alors 2B maintenant, 2A c'était ne confondez pas l'autorité qui est une qualité avec le sujet. Et donc 2B, qu'est-ce que l'autorité ? On commence, comme toujours, par l'étymologie, auctoritas, qui vient de augere, augmenter, auctus, augmenter, c'est très proche de la paternité, à autorité, celui qui donne la vie. Autorité, paternité. Bon, il est normal que celui qui donne la vie ait autorité. Alors on donne la vie physique, parce qu'on engendre, on donne la vie intellectuelle, on donne la vie morale, on donne la vie sociale, on donne la vie familiale, toutes sortes, vous voyez. Si on veut aller plus loin dans la définition de l'autorité est une sagesse. d'une sagesse. C'est l'expression d'une sagesse. Vous avez évidemment plusieurs degrés d'autorité. Et alors là, faites attention, ne confondez pas autorité et pouvoir. Pour l'instant, nous ne parlons pas du pouvoir. Nous ne parlons pas de l'exécution de ce qui a été dit par l'autorité. Ça, c'est encore une autre chose. Ne confondez pas autorité et pouvoir. Quand un père est absent parce qu'il est à la guerre, parce qu'il est en prison, moi j'ai connu les pères en prison, parce qu'il est marin-pêcheur comme les Bretons, il peut très bien exercer l'autorité sans être présent. Et vous avez des pères qui sont présents et qui n'exercent pas l'autorité. C'est pour ça que je n'accepte pas, je n'apprécie pas ces livres sur la paternité qui vous disent qu'un père doit être physiquement présent constamment à sa famille pour exercer l'autorité. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas nécessaire qu'un père rentre à 6 heures du soir pour être avec la famille. Il peut très bien être au travail jusqu'à 8 heures du soir et exercer l'autorité. Pourquoi c'est faux? Parce que ces livres qui fleurissent chez nous identifient eux aussi la qualité avec l'homme. Si l'homme n'est pas présent, l'autorité ne peut pas s'exercer. C'est pas vrai. Alors, évidemment, il faut une certaine présence, au moins par lettre ou par son épouse ou d'une autre manière, mais quelle est l'autorité de Mgr Lefebvre encore aujourd'hui, ici, sur ce prieuré, ici, alors qu'il est mort? Defunctus adduc loquitur, mort, il parle encore. L'autorité de Mgr Lefebvre, ici même, est considérable, bien qu'il soit mort. Alors laissons les hommes faire ce qu'ils ont à faire, et n'en faisons pas des fausses femmes, présents à leur famille continuellement, et qui du coup n'arrivent plus à exercer l'autorité parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. Je me fâche parce que c'est courant ça, c'est courant dans la fraternité Saint-Pédis et même dans la fidélité, on entend ça, ah le devoir de l'homme c'est d'être avec sa famille, il faut qu'il rentre à 6 heures du soir. Je vous garantis que mon père ne rentrait pas à 6 heures du soir, hein. Parce que pour dépenser tout l'argent que nous lui dépensions, il avait intérêt à travailler. Hey, papa, hein, oui, papa, encore un chèque. Papa, la vache à lait. Je l'ai entendu, celle-là, où j'étais pas fâché d'être la vache à lait. Mais pour être la vache à lait, qu'est-ce que vous voulez? Il rentrait souvent à 9h du soir. Ça n'empêche pas que j'ai pour lui une admiration extraordinaire. Oui. Alors qu'est-ce que l'autorité, vous voyez? C'est cette participation à la sagesse de Dieu. Alors vous avez l'autorité du pape sur l'Église qui enseigne la vérité, vous avez l'autorité du roi dans le royaume, mais avant l'autorité du roi, attention, vous avez dans le royaume une autorité supérieure au roi. Et pourtant le roi est souverain. Nous n'y faisons pas attention dans les royaumes chrétiens parce que cette autorité c'est celle de l'Église. Mais dans les royaumes païens, vous avez une autorité qui est supérieure au roi, qui est une autorité morale, qui est l'autorité des prêtres, qui est l'autorité des savants, qui est l'autorité des sages. Alors souvent dévoyée par le péché originel, elle peut être dévoyée, mais pas tant dévoyée que cela. Cité d'Athènes était une cité dans laquelle vous n'aviez pas de roi, et il n'y avait pas besoin d'avoir un roi parce qu'il y avait une telle autorité religieuse qu'on n'avait pas besoin d'avoir un roi. Hein? À Rome, vous aviez le Sénat qui exerçait l'autorité, et pour bien montrer que le Sénat exerçait l'autorité et qu'il ne soit pas soumis au sondage comme l'est l'actuel Charles III, là, en Angleterre, il paraît qu'il a remonté dans les sondages. Mais vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est soumis au sondage pour gouverner. Le monde veut qu'on fasse évoluer la royauté anglaise, donc le roi va faire évoluer la royauté anglaise. Mais il a perdu toute liberté. Bien sûr, Et donc il y a une autorité religieuse, et puis le roi reçoit cette autorité religieuse et il l'applique à son pays. Prenez l'exemple de Saint-Louis, mais pas seulement Saint-Louis, prenez Charlemagne. Lisez la vie de Charlemagne, vraiment, lisez la vie de Charlemagne. Et alors, cette autorité s'exerce également dans la famille. Le père a autorité parce qu'il exerce une sagesse. Et tout de suite, ce que je vous fais, là, c'est d'exercer l'autorité. Mais je n'exerce pas un pouvoir tout de suite. Je ne vous dis pas, faites ceci, faites cela. Je n'exerce pas un pouvoir, j'exerce l'autorité. Je parle au nom de Dieu et vous savez très bien que je suis en train de parler au nom de Dieu parce que vous avez une intelligence qui fait que vous reconnaissez ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Quiconque est honnête reconnaît ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Alors vous allez me dire, pourquoi y a-t-il des hommes? Ben parce qu'il y a des hommes pour le formuler. Parce que ça a besoin d'être transmis, parce que ça a besoin d'être traduit, parce que ça a besoin d'être dit. Parce que vous n'êtes pas des anges. Si vous étiez des anges, il n'y aurait pas besoin de roi, il n'y aurait pas besoin de prêtre, il n'y aurait pas besoin de maître, il n'y aurait pas besoin de tout cela. Le bon Dieu a transmis aux anges la vérité, tchac, ça y est, la lumière est en eux. Elle est dès le début aussi parfaite qu'elle peut être dans chacune des natures angéliques. Et puis il n'y a pas besoin de quelqu'un pour la rappeler, et puis pour l'appliquer, et puis pour la traduire, et que sais-je. Mais les hommes ne sont pas comme ça. Alors le bon Dieu a confié son autorité à des hommes qui vous la retransmettent, qui vous la redisent, qui vous la réexpliquent et qui la rendent vivante. Voilà. Et puis je suis obligé d'arrêter là parce que vous m'écoutez. Quand je m'aperçois que les sermons sont longs, je me dis oh là là. Et vous m'écoutez, donc il faut croire que ce que je dis est intéressant. Une autre fois, je vous parlerai du pouvoir, mais confondez pas autorité et pouvoir. Je vous en supplie, confondez pas autorité et pouvoir. Le pouvoir, c'est l'application concrète de l'autorité, ça n'est pas l'autorité. On peut avoir l'autorité et le pouvoir dans la même personne, mais ce sont deux qualités différentes. Attention. Et je voudrais terminer alors très rapidement par une troisième partie, parce que le monde moderne ne croit plus à l'autorité divine. Pourquoi il n'y croit plus? Parce qu'il ne croit plus qu'on puisse connaître la pensée de Dieu, parce qu'il ne croit plus qu'on puisse lire dans la nature, dans les événements, dans les hommes, qu'on puisse lire la pensée de Dieu. Alors qu'est-ce que fait l'homme moderne? Parce qu'il n'y croit plus. Du coup, il se méfie de tout homme qui exerce l'autorité. Il se méfie de tout dépositaire de l'autorité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on la contrôle. Et on la contrôle par quoi? Par d'autres hommes. Finalement, on la divise et sous prétexte de la contrôler, on l'annihile. Et quand on a annihilé l'autorité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a des petits malins qui par-dessous tirent les ficelles. Et ça, c'est la démocratie. Et ça, c'est le synode sur la synodalité. Voilà, c'est tout. Prenez les États-Unis. Il n'y a pas un homme au monde qui ait si peu de pouvoir que le président des États-Unis, malgré les apparences. Un simple juge, en condition d'avoir la Cour suprême, est capable de casser n'importe quel ordre, quasiment n'importe quel ordre donné par le président des États-Unis. Il est contrôlé par le Sénat, par le Congrès. Il est contrôlé par le Congrès. Mais le Congrès lui-même est contrôlé par le président, lui-même contrôlé par d'autres. Et qui tire les ficelles, hein, par-dessous? Qui tire les ficelles, dites-moi un peu? Les groupes de pression? Nécessairement. Alors ça commence de façon très sage. On contrôle l'autorité, on divise l'autorité. Vous avez Don Delatte qui fait un commentaire à propos de l'autorité absolue du père abbé dans le monastère. Attention, absolue! Et cette autorité absolue, la garantie que Saint Benoît donne, c'est que le père abbé se rappellera qu'il devra rendre compte de sa gestion au jugement de Dieu quand il paraîtra devant Dieu. Et Don Delatte dit, si un père abbé ne respecte pas le jugement de Dieu dans l'exercice de son autorité, aucune autorité humaine il ne la respectera. Il ne respectera aucune autorité humaine s'il ne respecte pas l'autorité divine. Il ne respectera aucun pouvoir humain s'il ne respecte pas l'autorité divine et le pouvoir de Dieu qui le jugera. Alors on divise par des gens qui ne respectent pas l'autorité de Dieu, et au lieu de résoudre le problème, on le multiplie. La question n'est pas de savoir si le Congrès contrôle le président et si le président contrôle le Congrès. La question est de savoir au nom de quelle autorité s'exerce le contrôle. C'est ça la véritable raison, le véritable argument. Et évidemment, vous avez là-dessous le démon qui ricane et qui se sert de toutes ces belles théories dans lesquelles les hommes se plaisent parce que cela flatte leurs caprices. Et puis qui part derrière, évidemment, alors là, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans l'autorité, on est dans le caprice pur et le démon qui tire les ficelles et qui pousse les uns et qui pousse les autres. Et puis on arrive à ces horreurs du synode allemand. Ces horreurs qui viennent de la base, soi-disant. Je vous garantis que vous aurez à être martyr là-dessus, hein. Le martyr qui nous attend n'aura pas la belle noblesse des martyrs des premiers chrétiens. Nous serons martyrs parce que nous aurons discriminé des actes contre nature. Il arrivera un jour où la prédication que je vous fais sera condamnée par les hommes. De même que votre autorité de père de famille est battue en brèche par tout ce qui existe de prétendue autorité dans le monde. De même, la liberté que j'ai de vous parler et de dire ce que je vous dis sera un jour condamnée. Je serai perçu comme le plus profond des révolutionnaires parce que j'empêcherai le désordre de la révolution. On n'a pas le droit de parler comme ça. Voilà, c'est un peu un défi d'avoir prétendu en un seul sermon vous exposer tout ça. Je me suis dit, là, il faut absolument que j'explique ces choses-là, parce que on croit que c'est acquis, on croit que c'est naturel, on croit que tout le monde le sait, parce que, voilà, et puis on s'aperçoit que finalement, si on n'y réfléchit pas un petit peu, c'est peut-être pas aussi solide qu'on peut croire. Bon, un mot là pour les jeunes. Toute autorité vient de Dieu. Donc vous avez intérêt à respecter l'autorité paternelle. Hein. Si vous ne la respectez pas, alors vous ne respecterez aucune autorité. Aucune. J'ai jamais dit que votre père était un saint. J'ai jamais dit qu'il était infaillible. N'empêche qu'il exerce l'autorité. Et bien que l'autorité soit différente du sujet, c'est-à-dire bien que votre père ne soit pas l'autorité et qu'il exerce l'autorité, vous avez intérêt à respecter l'autorité de votre père. Et le quatrième commandement dit « Honore ton père et ta mère pour vivre longuement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne respectes pas ton père et ta mère, tu te suicides. Celui qui ne respecte pas l'autorité de son père et de sa mère se suicide, se détruit. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de paternité. Alors le jour où votre père vous apprendra à voler, vous me direz, monsieur l'abbé, je ne lui obéis pas. Enfin, pour l'instant, je ne pense pas qu'ici, il y a beaucoup de pères qui aient appris à voler à leurs enfants. Si ce n'est à voler de leurs propres ailes. Allez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.